15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout où nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il sera à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vous présente, vous êtes médecin urgent. Mais ici, du lundi au vendredi, c'est de la santé des auditeurs d'Europe 1 dont nous allons prendre soin. Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à l'alimentation et tout particulièrement à ceux qui ont des kilos en trop. Notre invité, le docteur nutritionniste Arnaud Cocolle, a un message qui va vous plaire à tous ceux qui veulent perdre des kilos. Donc lâchez du lest et mangez en paix. On verra ce qu'il veut dire par là et si vraiment en lâchant, sans régime, on peut réellement perdre du poids. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des vers intestinaux chez les enfants, qu'on appelle aussi l'oxurose. 70 à 80% des enfants en ont un jour ou l'autre. Il nous dira quoi faire pour s'en débarrasser. Ensuite, dans notre chronique Les bobos du quotidien, aujourd'hui, on va parler de la lourdeur des sacs à dos écartables de nos enfants. Quels sont les risques pour leur dos et justement, comment les soulager? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, on va parler de ces femmes qui n'aiment pas les préliminaires. Mais tout de suite, pour ouvrir votre magazine Santé Bien-être, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, on écoute la première question, c'est celle de David, 40 ans, on écoute.
Bonjour Mélanie, j'utilise beaucoup l'homéopathie et demain je sais que c'est plus remboursé et du coup je me pose quand même pas mal de questions. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'étranger? Merci beaucoup.
Alors, c'est pas la première fois qu'on nous pose cette question, hein. Où vais-je pouvoir me fournir en homéopathie à l'avenir? Je crois qu'il faut d'abord insister sur un point. Le fait que les médicaments homéopathiques soient bientôt plus remboursés par l'assurance maladie, ça veut pas du tout dire qu'ils vont disparaître des officines des pharmacies françaises. Alors, c'est vrai, en revanche, Jimmy, hein, que ça va changer un peu pour les habitués de cette médecine dite naturelle, plus naturelle. Concrètement, ce qu'il faut dire, c'est que ça va se faire en deux temps, hein, c'est ça?
Exactement. Et pas de panique pour les vrais médicaments qui sauvent des vies tous les jours. Ils seront toujours remboursés, eux. Actuellement, le traitement homéopathique est remboursé à 30%. Et le décret a été publié de la façon suivante, c'est qu'au 1er janvier 2020, il sera remboursé à 15%. Ce qui veut donc dire que les mutuelles continueront de le prendre en charge et puis on passera après un déremboursement par l'assurance maladie de ces traitements.
Total. Donc là, première étape au 1er janvier qui arrive, là, le 1er janvier prochain, à 15%, puis donc 0%, plus de remboursement du tout en 2021. Et donc c'est en 2021 que ça sera définitivement plus remboursé du tout, là, qu'on va devoir payer.
Que la solidarité nationale fera qu'on ne remboursera plus ces traitements, mais peut-être qu'on trouvera un arrangement avec des mutuelles qui commencent déjà à rembourser des médecines dites alternatives comme l'ostéopathie, prise en charge parfois des consultations de nutrition.
Parfois, ouais.
Donc très bien, et donc peut-être qu'à ce moment-là il y aura des arrangements et donc que les gens pourront quand même être remboursés au travers de leur mutuelle privée.
Et puis je crois quand même qu'il faut relativiser un peu ce déremboursement en réalité pour les férus d'homéopathie. En fait, en termes de pouvoir d'achat, ça va pas changer non plus grand-chose. En fait, certes, on n'aime jamais qu'on nous dise voilà, demain le médicament que vous prenez tout le temps, il sera plus remboursé. C'est jamais très populaire comme décision. Mais je rappelle en fait qu'un tube de granules quand même d'homéopathie, ça coûte en moyenne 1 à 2 euros, donc c'est pas très cher. Et puis si on prend en fait les chiffres officiels de l'assurance maladie, jusque-là la somme moyenne qui était remboursée par an, par patient, c'était 18 euros. Donc même pour, si on prend les très gros consommateurs, là c'était 25 euros maximum par an. Donc je crois quand même que les personnes qui allaient jusqu'à 25 euros remboursés par an d'homéopathie, ils paieront de leur poche et ça devrait pas changer grand-chose. Et puis Jimmy, on peut aussi ajouter donc, que finalement tout n'est pas remboursé déjà aujourd'hui. En homéopathie.
Oui, il y a des traitements qui ne sont pas du tout pris en charge, comme l'oscillococcinum. Je ne me positionnerai pas là-dessus, mais c'est souvent, presque souvent vendu en pharmacie, ou l'arnigel qui est déjà acheté, qui n'est déjà pas remboursé. Donc finalement, ça ne changera pas grand-chose.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors on va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est Camille, 30 ans, qui nous l'a posée. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, je vois pas mal d'articles sur internet qui expliquent que le fait de se laver tous les jours est mauvais pour la peau. Je voulais avoir votre avis là-dessus pour voir s'il faut alterner un jour ou deux ou si c'est l'intox, ce genre de choses. Merci beaucoup, au revoir.
Alors c'est vrai, Jimmy, depuis quelques temps, là, depuis cet été notamment, hein, sur Internet ou sur certains blogs, on voit qu'il y a des tendances comme ça à inciter les gens à moins se laver, que ce soit le corps ou les cheveux d'ailleurs. Tout ça souvent dans un but d'utiliser moins de produits chimiques. Alors les gels douches, les shampoings, ça peut être aussi pour une idée de protéger l'environnement. Mais là, on va essayer de voir ce qu'il faut faire vraiment pour notre santé, hein, enfin plutôt pour notre hygiène, on va dire. Est-ce qu'il est vraiment indispensable de se laver tous les jours?
Alors on est face à un paradoxe, c'est qu'il faut quand même se laver car on doit éliminer la sueur, les bactéries, les pollutions extérieures. Mais d'un autre côté, les produits qu'on utilise, les dermatologues le disent, sont trop abrasifs et finalement abîment notre peau.
Donc du coup, on se lave avec... En fait, on choisit de mieux se laver différemment.
Exactement. Par exemple, prendre une douche un jour sur deux, ne pas utiliser de shampoing. Et puis pour ceux qui veulent absolument se doucher avec du shampoing qui ne se contenterait pas simplement de l'eau, bah, peut-être d'utiliser des savons qui sont un peu moins agressifs et un peu plus écologiques.
Parce que tout ça, ça enlève en fait un film qu'on a naturellement sur la peau. Hein. C'est ça qui crée des problèmes.
Exactement. Ça attaque la barrière hydrolipidique qui est censée protéger notre peau. Donc les produits sont trop décapants. Donc il faut trouver une alternative.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Camille qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute. Surtout, n'hésitez pas, nous y répondrons au plus vite. Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler des vers intestinaux chez les enfants. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur nutritionniste Arnaud Cocolle, qui nous invite dans son nouveau bouquin à lâcher du lest, à manger en paix. Comment déculpabiliser niveau alimentation quand on a quand même quelques kilos en trop? Il nous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre nouvelle émission Santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité du jour, le docteur nutritionniste Arnaud Cocolle, qui va nous aider à moins culpabiliser devant notre assiette, même quand on a quelques kilos à perdre. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous avez décidé de nous parler des vers intestinaux chez les enfants. D'abord, c'est quoi ces vers concrètement?
Alors, c'est la parasitose digestive de l'enfant la plus fréquente. Ça appartient à la famille ce qu'on appelle des nématodes. Et concrètement, c'est des vers de quelques millimètres
blancs
qu'on retrouve au niveau des fesses des enfants.
D'accord. Et alors, on les attrape comment? Ils arrivent comment à cet endroit d'ailleurs? Alors,
essentiellement dans les bacs à sable, en fait. Les enfants jouent, ils ont des vers qui se logent sous leurs ongles. Et forcément, un enfant, qu'est-ce que ça fait?
Il met les doigts à la bouche.
Ça met ses mains à la bouche. Et donc, le petit parasite va dans le tube digestif, va jusqu'à la marge anale, pond des œufs et se développe comme
suite,
ça.
Et on en a plein, d'accord. Et quels sont les signes justement qui doivent faire penser aux parents que leur petit, il a peut-être des vers intestinaux?
Alors, le plus simple, c'est que lorsqu'on les voit, on peut en trouver dans les selles, dans les couches, donc pas de panique à ce moment-là. Lorsque l'enfant se gratte les fesses, et d'ailleurs, l'enfant se gratte les fesses, et puis qu'est-ce qu'il fait après? Il remet ses mains à la bouche. Les petits vers qu'il a, auto-contamination,
et ça repart.
Mais attention, il y a des symptômes un peu plus frustres. L'enfant qui fait des cauchemars la nuit, qui est irritable, avec des réveils nocturnes un peu inexpliqués. Et chez la petite fille, des vulvites à répétition. Tout ça, c'est des signes qui orientent vers des vers, même si on ne les a pas vus.
D'accord. Et surtout, alors comment on les traite quand même? Parce que bon, c'est bien beau d'en avoir, mais on veut s'en débarrasser, évidemment.
Alors, c'est très simple. On utilise ce qu'on appelle un vermifuge, qui s'appelle le Fluvermal, qui est disponible à la pharmacie sans ordonnance. On donne une dose, on ne peut pas donner avant un an, donc c'est à partir de un an. Et il ne faut pas.
C'est une sorte de sirop. Hein,
c'est un sirop, tout simplement. Une cuillère mesure, c'est la même dose pour tout le monde, à partir de un an.
Après.
On recommence 15 jours après, entre 15 et 21 jours, pour tuer le cycle parasitaire
comme
entier.
Comme avec les poux, il faut
exactement,
recommencer.
Parce que sinon, les petits œufs qui n'ont pas eu le temps d'éclore vont venir et puis on recommence. Et souvent, on traite aussi la fratrie. Parce que
il faut traiter tout le monde.
C'est très contagieux.
Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, le docteur nutritionniste Arnaud Cocolle, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, son titre « Lâcher du lest, manger en paix » chez Flammarion.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour, docteur Cocolle.
Bonjour, Mélanie.
Bon, alors avec vous, avec ce livre, d'abord, vous êtes un peu le seul nutritionniste qui nous dit aujourd'hui « Lâchez-vous avec la nourriture ». C'est un peu bizarre quand même, il n'y a jamais eu autant de gens en surpoids ou obèses et vous nous dites « Lâchez-vous, lâchez du lest, mangez en paix ».
Oui, il faut se lâcher parce que malheureusement, on va y revenir, mais la plupart des régimes, 95% des régimes, sont des échecs sur 3 ans. C'est-à-dire que vous allez reprendre l'intégralité. Donc il y a toutes sortes de techniques, d'ailleurs on pourra y revenir. Il y a même des patients, pour rebondir sur ce que vient de dire Jimmy, il y a des patients même qui se faisaient livrer du ténia, vers solitaire, donc du coup, et perdait du poids. Donc toutes les techniques les plus aberrantes sont sur la place d'Internet.
Donc vous ramenez un peu de rationalité dans tout ça. Et donc dans votre ouvrage, j'ai vu qu'au tout début, il y a un questionnaire pour que chacun puisse cerner sa personnalité alimentaire. Alors c'est quoi ce test?
Oui, alors c'est des questions un petit peu pour centrer, pour que le patient voit qu'il n'y a pas que la problématique du poids qu'on va aborder. On va aborder d'autres problématiques parce que l'alimentation peut être un petit peu le pansement qu'on se met, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien, donc on prend un pansement et on fait un ballast avec l'alimentation pour calfeutrer tout ce qui ne va pas et qui part dans tous les orifices, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas bien, qu'on est stressé, qu'on est peut-être harcelé au boulot, qu'on est peut-être en horaire décalé, que sa femme va vous quitter, etc.
Donc c'est quoi cette personnalité ? On est une personnalité comment, par exemple ? On peut être quoi ou quoi ?
Alors, il peut y avoir des gens qui peuvent être angoissés, des gens qui sont stressés, des gens qui sont dépressifs.
Donc il y a l'angoissé gens... alimentaire, le dépressif alimentaire, l'hyperphage, celui qui se gave.
Oui, alors vous avez des troubles du comportement alimentaire également. Et surtout, beaucoup de personnes qui sont en restriction. C'est-à-dire qui enchaînent les régimes et qui, à force d'enchaîner les régimes, tombent en restriction, c'est-à-dire ils mangent trop peu.
Jimmy ?
Et à quoi ça sert ces tests une fois qu'on a la personnalité ? Qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, j'oriente, je travaille en équipe. Je pense qu'il faut être dans une médecine holistique. C'est-à-dire, une médecine holistique, c'est la médecine globale. C'est-à-dire, il ne faut pas scinder l'individu du reste, c'est-à-dire le psychisme avec le corps. Donc, je travaille en équipe avec des psychiatres. J'ai un ami qui a écrit plusieurs bouquins, le docteur Bernard Westfeld, par exemple, qui est vraiment un psychiatre reconnu dans le domaine des troubles du comportement alimentaire, avec qui je travaille énormément. Et on essaye d'ajuster le patient. C'est-à-dire, on est en équipe, le patient se sent vraiment dans une équipe globale. C'est-à-dire, il n'est pas dispersé, il est compris. Il va pouvoir parler de ses problématiques.
Puisque son assiette, vous regardez ses comportements d'abord,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est son comportement, parce que l'assiette, je vous dis, il y a beaucoup de patients qui savent ce qu'ils devraient manger et qui s'en sortent pas si mal. Mais simplement, ils mangent trop peu, la plupart du temps, ou ils mangent mal. C'est-à-dire qu'ils vont manger en grignotant, et qu'ils vont manger très vite, qu'ils vont manger debout, qu'ils vont manger à n'importe quelle heure, ou qu'ils vont manger aussi des portions qui sont complètement inadaptées. Donc il faut les calmer, leur dire, vous arrêtez un petit peu, vous posez, donc vous allez prendre du temps pour manger, vous arrêtez les écrans, vous mangez en pleine conscience, donc vous conscientisez un petit peu ce qui se passe dans votre bouche.
Donc on comprend que votre méthode pour faire maigrir ceux qui en ont besoin, c'est plutôt d'agir sur le comportement. On va rentrer dans le détail, restez avec nous docteur Cocolle, on n'en a pas terminé. Dans un instant, nous allons continuer à parler de notre alimentation, de comment manger avec plaisir, hein, puisque c'est le sujet du jour, même quand on doit perdre quelques kilos, et oui, vous verrez que c'est possible. A tout de suite sur Europe 1.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble ce lundi jusqu'à 16h pour votre nouvelle émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et vous, docteur Arnaud Cocolle, vous êtes nutritionniste. Dans votre dernier livre, je crois que vous allez quand même fâcher quelques nutritionnistes, car vous dites que finalement, c'est souvent à cause de tous les régimes, les Ducans, les Ricazara, les régimes soupe aux choux, que finalement on est de plus en plus gros. Ils vont pas être contents, tous les
non,
copains.
Non, mais ça, c'est pas moi qui le dis en tant qu'individu. C'est publié, ça on le sait. Donc il y a des études, des méta-analyses qui l'ont montré par plus B. C'est-à-dire que les régimes, il y a eu le rapport de l'ANSES qui était coordonné par Jean-Michel Lecerf
il y a quelques années.
Et donc on tapait sur les doigts des nutritionnistes ou pseudo-nutritionnistes qui se prévalaient d'avoir découvert le régime miracle. Saurait. Et en fait, plus je vieillis, plus je vois que c'est compliqué, la nutrition. Pour perdre du poids, c'est extrêmement compliqué de maintenir cette perte de poids au long cours.
D'ailleurs, vous faites quelque chose d'intéressant, vous, avec vos patients, vous m'avez raconté, vous leur dites souvent, quand ils viennent vous voir, après avoir fait plein de régimes, vous leur dites, prenez une feuille et vous leur demandez de faire un petit exercice. C'est quoi cet exercice ?
Oui, d'un côté, c'est d'empiler les régimes sur la gauche, là,
de voir le poids
qu'ils faisaient.
J'ai fait le Ducan, j'ai fait le machin, j'ai fait le truc.
En sortant du régime, etc. Puis de voir le poids au final.
Au départ, je faisais 50 kilos, puis au final, 10 ans après...
Encore hier, j'ai une patiente qui vient, qui me dit, j'ai fait le régime, alors je sais pas, c'était type soupe aux choux. Puis elle me dit, ça a marché. Je lui dis, qu'est-ce que vous faites devant moi ? Alors évidemment que ça n'a pas marché, parce que sinon vous ne seriez pas devant moi.
Donc,
et finalement, pourquoi les régimes font grossir ? Vous pouvez nous expliquer ça ?
Ça perturbe les commandes centrales. On a des systèmes de régulation au niveau cerveau, au niveau de notre hypothalamus. Et ce système de régulation nous permet de garder notre poids d'équilibre, le pondérostat. Et à force d'empiler les régimes comme des millefeuilles, petit à petit, ce pondérostat est complètement perturbé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont plus aucune notion de poids stable. D'ailleurs, quand on les interroge, quel est votre poids stable ?
Je
ne sais pas. Donc, vous, vous êtes vous-même perdu. Donc, il faut s'appuyer parfois sur des techniques. Moi, je m'appuie sur des compositions corporelles aussi pour déterminer un petit peu le pourcentage de masse grasse, de masse maigre.
Vous faites passer des scanners, vous m'avez
oui,
dit.
Oui, des scanners pour déterminer.
C'est pas trop irradiant, ça ?
Non,
ça,
ça vaut 15 jours en Bretagne,
d'accord,
à peu près.
Okay. Ils voient vraiment le gras qu'il y a, qu'on peut perdre. Quoi, c'est
oui,
ça ?
Et puis vous arrivez à établir le métabolisme basal. Parce qu'il y a des gens, à force de faire des régimes, qui ne brûlent pratiquement plus rien. Moi, j'ai des patients qui se retrouvent à 900 calories de métabolisme de base.
C'est pas grand chose.
C'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent la bouche, ils grossissent. Et quand ils vous disent « je regarde le croissant, je commence à grossir », ils sont pas loin de la vérité.
Alors vous, ce que vous proposez du coup à vos patients, c'est finalement la méthode Cocol, c'est quoi ? C'est un non-régime, donc c'est l'inverse.
Ah, c'est le non-régime. Alors le non-régime, parce que je pense qu'on a été très nocif pendant des années. Vous savez que déjà, on n'a aucun médicament pour faire perdre du poids. Donc,
ou alors ils sont dangereux, il y en a, mais
alors,
dangereux.
Oui, non, non, laissez tomber. Donc surtout, pas d'internet, n'allez pas piocher
la
pilule qui vient de Belgique via la Chine, etc.
Il n'y en a aucune qui fonctionne,
sinon
au pire elles sont dangereuses.
Si, il y en a qui fonctionnent, mais vous allez vous retrouver entre six planches. Donc il faut arrêter. Donc on a vu le médiateur, etc. Donc on a empilé des tas de tas de substances qui étaient extrêmement nocives. Pourquoi ça ne marche pas les régimes ? Parce que c'est tellement multifactoriel. On voit maintenant que nos organes grossissent aussi. Quand vous prenez du poids, vous grossissez de l'intérieur. Votre foie qui va devenir plus gras. Vous allez avoir même la prostate. Hier, je fais justement cette composition corporelle et je dis aux patients, ben regardez, votre prostate, elle a même augmenté de volume. Votre pancréas, il est devenu gras.
Ouais, tout
il y avait de la graisse même dans son pancréas. Je lui dis, vous risquez éventuellement de faire des pancréatites, etc. Donc, tout l'organisme grossit de l'intérieur. Il n'y a que le cerveau, comme je dis à mes patients, qui ne grossit pas. On ne devient pas plus intelligent,
avec,
malheureusement.
Avec votre méthode de non-régime, vous les faites maigrir quand même, les patients, j'espère ?
Oui, alors, étonnamment, quand j'hospitalise, par exemple, des patients, il y a des patients qui me disent « vous me donnez trop à manger, je ne vais jamais réussir à maigrir avec ce que vous me donnez à manger ». Et au bout d'une semaine, il y a quelques patients, je ne dis pas l'intégralité, quelques patients qui me disent « docteur, je me rends compte que je ne mangeais pas assez ». Et donc, grâce à ce que vous m'avez donné, j'ai réussi à perdre.
On va revenir sur toutes vos astuces dans quelques minutes. Vous restez avec nous, docteur Cocol. On se retrouve dans un instant. Dans quelques minutes, on va donc continuer à parler de notre alimentation. Et le docteur Cocol va nous donner des astuces très concrètes pour perdre du poids, sans se mettre vraiment au régime. Vous verrez par exemple qu'en changeant de vaisselle, on peut réguler son appétit. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le nutritionniste Arnaud Cocol, docteur, qui vient nous parler de son nouveau livre « Lâcher du lest, manger en paix » chez Flammarion. Alors, un de vos conseils pour faire maigrir vos patients, j'en ai parlé il y a quelques minutes, je crois que vous leur conseillez de changer d'assiette. Alors, ça veut dire quoi ça ?
J'ai un patient que j'avais vu à l'hôpital n'avait pas de troubles patents du comportement alimentaire, sauf qu'il était hyperphage, il mangeait beaucoup et il était tachyphage, il mangeait rapidement. Donc
ça
suffisait.
Je connaissais pas,
voilà,
tachyphage.
La tachyphagie. La tachycardie, c'est le rythme cardiaque qui est trop rapide.
Je crois
la
tachyphagie,
vous mangez trop rapide. Voilà, on engloutit. Et donc je lui dis, écoutez, tout simplement, vous allez sortir d'ici, vous allez acheter des assiettes plus petites, parce que à mon avis, vous mangez et vous allez mâcher. Donc vous allez faire les deux. Et rien qu'en faisant ça, il est revenu un an après, ce qui est rare, parce que parfois il y a beaucoup de patients qui disparaissent dans la nature. Il est revenu simplement pour me remercier, ce qui est très sympa. Il avait perdu une vingtaine de kilos.
En changeant d'assiette.
Il m'a dit, c'est la première fois qu'un nutritionniste ne me prend pas la tête avec un régime. J'ai toujours mangé ce que je voulais, parce que je ne l'ai pas gonflé avec ça.
Mais c'est comment ça marche, ça ? Parce qu'on comprend qu'on en met moins dans l'assiette, mais du coup ça trompe un peu le cerveau, quoi.
Oui,
enfin, c'est ça.
Oui, parce qu'il faut que vos portions soient adaptées. Vous, Mélanie, on ne voit pas, mais vous êtes plus petite que moi. Donc,
Largement.
Moi, j'ai le droit de manger plus que
surtout
vous.
Surtout, vous êtes très, très grand. Hein, vous faites presque 2 mètres pour nos auditeurs qui
donc,
ne sauraient pas.
Les portions doivent être adaptées. Si votre enfant de 9 ans mange autant qu'un adulte, c'est évident qu'il va avoir un problème de poids
bien
aussi.
Sûr.
Donc, si une femme qui fait 1m55 mange autant que son mari qui fait 1m80 qui est maçon, il y a un problème quelque part.
Jimmy ?
Et vous dites qu'il faut bien mâcher, mais ça marche vraiment. Et pourquoi ça marche d'ailleurs ?
Alors, c'est un Américain qui s'appelait Horace Fletcher qui, au début du 20e siècle, avait inventé cette technique parce qu'il s'était vu refuser une police d'assurance. Et c'était un homme d'affaires, il était trop gros. Donc, il s'est dit, je vais mastiquer parce que je mange trop rapidement. Donc, il a créé cette méthode qui est le fletcherisme. Il allait jusqu'à peser ses selles. Bon, je ne demande pas aux patients de faire ça.
Ouais, là, c'est un peu
et donc, il fallait manger autant de fois que vous aviez dedans. Donc, 32 fois minimum. Donc, et il fallait mâcher pour que
l'aliment... Bon, quand on vieillit, on a peut-être moins dedans, on mâche un peu moins.
Oui, mais ça, c'est l'un des problèmes d'ailleurs. Mais il fallait mâcher jusque l'alimentation soit pratiquement liquide. Vous voyez, ce mélange qu'on appelle un bol alimentaire, qui est un mélange qui ne colle pas aux dents et qui est prêt à être ingurgité. Et il y a des études, vous avez une chercheuse, Marie-Agnès Perron, par exemple, à Clermont-Ferrand, qui a beaucoup travaillé sur la question, et qui montre que le fait de mastiquer permet de broyer les particules et qui vont renseigner en temps réel votre tube digestif de l'arrivée des nutriments. C'est-à-dire qu'il y a un ajustement parfait entre ce que vous portez en bouche et les besoins, et dans ce cas-là, une fois que les besoins sont remplis, vous arrêtez de manger naturellement.
Et le bœuf bourguignon, il arrive, mais il est bien mâché, du coup, il passe tout seul, il ne fait pas grossir.
Voilà, mais vous n'allez pas forcément finir votre assiette.
D'accord.
Donc, il y a cette notion aussi, parce qu'on parle de gaspillage alimentaire, on gaspille beaucoup, mais petit à petit, on réajuste la taille des assiettes.
Un autre conseil dans votre livre, vous conseillez de retirer les emballages, par exemple, des tablettes de chocolat. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des tablettes de chocolat, je note quand même. Et autres produits, qu'est-ce que ça peut faire de retirer les emballages?
Alors, une fois, je suis allé pour une émission de télé chez des personnes et je vois dans le salon, il y avait une énorme coupelle avec toutes les bouchées chocolatées qu'on peut connaître de marques américaines, etc., qui débordaient, une corne d'abondance. Moi-même, j'étais tenté, vous voyez. Et donc, j'ai dit à la personne, mais il faut ranger ça. Parce que, évidemment, les enfants, en permanence, passaient dans le salon et en prenaient une par-ci, par-là. Donc, il y avait un problème là-dessus. Donc, le fait de dématérialiser, c'est-à-dire, vous sortez, vous avez un paquet qui vous marque
«
mange-moi ».
On connaît bien.
Mange-moi,
ouais,
mange-moi en gros, etc. Parce que les paquets sont très travaillés, évidemment. Donc, vous enlevez, vous mettez dans une boîte métallique et vous rangez ça. Je peux vous assurer déjà que vous allez en manger moins.
Ah, on va faire ça avec les gâteaux à la maison. Je vais tous les sortir des emballages et ils partiront moins vite, peut-être.
Et après, il y a la vue. Moi, un jour, je vantais les mérites des amandes de Californie. Et ces amandes sont très bonnes pour la santé, tout ça. Et j'avais reçu un gros bocal rempli d'amandes. Alors, je l'avais mis sur mon bureau. Et évidemment, entre deux patients, j'en mangeais.
Ouais.
J'ai déplacé le bocal, je l'ai mis sur le côté. Déjà, j'en mangeais moins. Et après, je l'ai mis dans mon dos. J'en mangeais plus. En fait, le niveau continuait de baisser parce que c'est
quand
l'homme de ménage qui continue à en prendre. Mais donc, c'est toutes ces techniques qu'il faut apprendre.
Jimmy ?
Et donc, finalement, on comprend que ce n'est pas les aliments qui font grossir, mais c'est plutôt les régimes. Et vous dites qu'il y a d'autres choses qui peuvent perturber. Par exemple, Mélanie qui mange avec son téléphone sous les yeux, ce n'est pas terrible ?
Oui, ça, c'est les distracteurs d'attention. Vous savez, c'est Christophe André qui a beaucoup travaillé sur la question, un petit peu, le manger en pleine conscience. Et je pense qu'il a entièrement raison. Les distracteurs d'attention, vous savez que la nouvelle génération actuellement passe un temps fou sur les écrans, etc. Et donc, envoie des SMS en mangeant. Donc, le cerveau ne peut pas faire 36 choses à la fois. C'est-à-dire, il va privilégier une activité qui lui demande plus d'efforts intellectuels. Donc, ça va être de traiter l'information ou le traitement des images au détriment de l'information alimentaire. Donc, vous risquez, après, de surconsommer. Autre chose qui fait grossir, le manque de sommeil. La nouvelle génération, pareil, est en train de rogner sur son temps de sommeil. Le manque de sommeil par des voies hormonales fait grossir.
Pourquoi la nuit, on est censé sécréter quelque chose ?
Oui, vous sécrétez une substance qui s'appelle la ghréline, qui est la leptine, excusez-moi. Oui. La leptine va stimuler la satiété, mais si vous êtes en éveil, vous stimulez la ghréline qui, au contraire, va stimuler l'appétit.
Ah, quand on dort pas assez,
mais c'est comme la nuit, vous n'allez pas vous lever par aller aux toilettes, vous voyez, sauf passer un certain âge. Mais sinon, en temps réel, vous avez de la vasopressine, qui est une hormone qui vous empêche de vous lever.
C'est pour ça qu'on dit on maigrit quand on dort, en fait.
Non, qui dormine, c'est autre chose.
C'est
encore autre chose parce que l'origine n'est pas tout à fait ça.
Mais en tout cas, il y a cette hormone la nuit qu'on sécrète qu'il faut effectivement, donc, en dormant bien, sécréter pour ne pas avoir d'appétit.
C'est la chronobiologie. Donc on est synchronisé par rapport à la lumière du jour, le rythme circadien, donc il faut le respecter.
Dans votre livre, vous nous invitez tous à nous détendre en fait, par rapport à l'alimentation, d'ailleurs qu'on ait des problèmes de poids ou pas. Par exemple, on sait aujourd'hui que manger bio, c'est quand même meilleur pour la santé.
Oui.
Mais manger bio, ça coûte cher quand même. Alors qu'est-ce que vous conseillez du coup aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer du bio, quoi ?
Oui, alors il ne faut pas culpabiliser les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du bio. Moi, je trouve que dans ce cas-là, il faut leur dire, vous pouvez acheter des boîtes de conserve. Mm-hmm. Moi, je trouve que les boîtes de conserve peuvent être utiles aussi. Mais n'allez pas forcément sur les aliments carnés. Vous savez qu'il y a toute une problématique, on n'a pas le temps de reparler, mais il y a une problématique importante autour de ça. C'est-à-dire qu'on mange trop de viande, ça on le sait. Ça participe à la déforestation, à l'Amazonie, etc. Ben, on est en partie responsable de ça, indubitablement. Donc il faut revenir vers une alimentation plus flexitarienne. C'est-à-dire manger de tout, mais moins de viande, un peu de poisson, un peu de volaille, etc. Et des légumineuses. Donc l'un des moyens, c'est de dire aux gens, bah, achetez des légumineuses, des choses comme ça. Donc le bio, moins de pesticides, indubitablement. Mais si vous n'avez pas le budget pour acheter du bio, parce que ça peut être un peu plus cher que les autres prix, vous ne focalisez pas là-dessus.
Jimmy ?
Donc on arrête la viande ?
Non, leur arrêter la viande. Le problème, malheureusement, c'est que là, c'est des problématiques un petit peu de futur. C'est-à-dire que tous les pays émergents veulent manger de la viande. C'est-à-dire que l'Afrique va manger de plus en plus de viande. La Chine mange de plus en plus de viande. Donc les pays asiatiques, d'après le dernier rapport du GIEC, doivent manger davantage de viande, de protéines animales, parce qu'ils souffrent d'un manque. Et nous, les Européens, par contre, il faut qu'on diminue notablement nos apports carnés.
Merci beaucoup, docteur Cocol, d'être venu sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre livre qui vient de sortir chez Flammarion. Son titre, donc, Lâcher du lest, manger en paix. Dans un instant, on va s'intéresser au dos des enfants et surtout au poids des cartables et des sacs à dos qui risquent de leur faire mal à long terme. On vous dira quoi faire, donner quelques conseils. On se retrouve dans quelques minutes. Restez sur Europe 1.
Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Votre émission santé sans rendez-vous, c'est tous les jours sur Europe 1 de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on parle du poids des cartables, des sacs à dos de nos enfants. Benjamin Lévesque, notre Tintin reporter, a été vous demander ce que vous en pensiez et aussi des risques pour le dos des plus jeunes. On écoute son micro-trottoir.
Ah oui, les cartables des plus grands, ouais, ça fait peur, mais il y en a maintenant qui prennent des roulettes. Donc c'est bien, parce que c'est trop lourd. Sur le dos.
Des cahiers, des livres. Moi, je sais que le vendredi, on mettait notre blouse. On essaye de laisser à la maison, laisser dans les casiers ou des choses comme ça.
Il y a des problèmes de dos, de mal au dos, de fatigue, de mal de tête. Et je pense que tout ça, c'est lié évidemment au poids du cartable.
Et à l'ère d'Internet, désormais, les élèves vont avoir leurs livres sur des tablettes, j'imagine. Et donc, ils pourront presque aller les mains dans les poches dans les années à venir.
Bon, Jimmy, je crois qu'on est tous d'accord, en tout cas tous les parents qui ont des enfants, pour dire que le poids des cartables des plus jeunes, c'est parfois une cata quand même. Moi, je vois mon fils de 10 ans, il a parfois un cartable qui pèse une tonne. Moi, je n'ai pas souvenir quand j'étais petite d'ailleurs que j'avais porté autant de livres et de cahiers sur mon dos.
Oui, alors, c'est récent, mais ce qu'il y a, c'est que ça a beaucoup évolué. Et il y a une règle toute simple qu'il faut connaître, c'est que le poids d'un cartable d'un enfant ne doit pas dépasser 10% de son poids. C'est-à-dire que pour un petit garçon ou une petite fille de 30 kilos, c'est 3 kilos simplement. Donc ça va très très vite.
Et oui, ça dépasse bien souvent 3 kilos, mais
quasiment,
c'est pas grand-chose.
Pas grand-chose, surtout à l'entrée au collège, où on a toutes les matières d'un coup. Donc vous pouvez peser les cartables. Et on s'est rendu compte que finalement, les enfants avaient des cartables qui correspondaient à 17% de leur poids.
Ah oui, ça c'est la
moyenne.
Ouais.
Ça c'est la moyenne, donc c'est énorme. Et forcément, ça a des conséquences.
Mmh. Donc c'est bien de garder en fait 10% du poids de l'enfant. C'est le maximum qu'ils peuvent supporter, en tout cas sans avoir de risque sur leur dos. Donc du coup, on va tous peser les cartables ce soir des enfants sur la balance. Parce que concrètement, en fait, nos enfants, ils risquent quoi si ça dépasse ces fameux 10%?
Forcément, le risque, il est au niveau du rachis, de la colonne vertébrale, du dos. Alors, votre enfant ne va pas avoir une scoliose d'emblée. Il va avoir une attitude scoliotique, c'est-à-dire qu'il va être voûté, penché en avant, mais il n'aura pas de vraie scoliose. En revanche, il peut avoir mal au dos. Et on se retrouve avec des enfants de 10-11 ans qui ont des lombalgies chroniques.
Ah, comme les adultes.
Comme les adultes. Et puis des enfants, comme ils ont mal au dos, ils boitent.
Ah oui,
parce qu'ils ont une démarche,
démarche
particulière.
Posture, ouais,
qui dit boiterie dit problème de genoux, problème de hanche.
Tout ça à 10 ans quand même.
À 10 ans,
tout ça
à cause d'un cartable. Donc évidemment qu'il y a un vrai retentissement. Et ce n'est pas simplement cette petite attitude voûtée qu'on peut voir en avant des collégiens ou des écoliers.
Bon, alors le problème, c'est qu'on ne peut pas dire à tous les chefs d'établissement de s'équiper ou d'équiper les établissements de casiers. Il y en a certains où il y en a, c'est super, mais ce n'est pas possible partout. Ni les enfants, ils ne peuvent pas toujours laisser toutes leurs affaires à l'école, puisqu'il y a quand même des devoirs à faire de temps en temps. Donc il faut en amener dans le cartable. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les parents, pour soulager les enfants? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Là, pour l'instant, à ce stade-là, c'est peut-être d'en parler
avec
l'équipe enseignante. C'est le moment de la rentrée. On aborde toujours plein de choses et parfois, on oublie le poids du cartable.
Donc, oui, il y a des réunions là, à la rentrée.
Exactement, donc c'est le moment de dire, au fait, j'ai pesé, on fait très bien le poids, mon enfant fait 35 kilos, le cartable en fait 7,5, ça correspond à 20% de son poids, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, bien souvent, les équipes sont ouvertes à la discussion et savent très bien qu'il peut y avoir des conséquences. Donc, c'est le moment d'en discuter, c'est la rentrée, il ne faut pas attendre le mois de juin ou le mois ou l'année prochaine avec des problèmes de dos de votre enfant.
Mais oui, effectivement, on a ces réunions, mais effectivement, retenez bien ce chiffre, on peut le sortir effectivement aux enseignants qui ne le connaîtraient pas, 10% maximum du poids de l'enfant, on peut donner le poids de son enfant, expliquer qu'on l'a pesé, que ça fait tant. C'est un bon argument un peu scientifique à donner aux
enseignants. Et c'est
factuel,
parce que c'est trop lourd, mais forcément, un ado de 15 ans qui peut supporter un peu plus de poids parce qu'il fait 60 kilos, c'est pas la même chose qu'un collégien en 6e. Donc forcément, le 10%, c'est vraiment une règle très simple à retenir.
C'est facile, effectivement. Et alors, si vraiment les profs ne veulent rien entendre, ou que ça ne les intéresse pas du tout ce sujet-là, ça peut arriver, ils ne sont pas comme ça, on adore les profs, il n'y a pas de problème.
On les salue.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut solliciter son médecin, son pédiatre?
Alors, par pitié, on ne court pas chez le médecin généraliste.
Non, attendez.
Non, mais si le poids du cartable fait 11% du poids.
Non, alors mettons, il fait 30%.
S'il fait 30%, Là, bon, et encore, je suis quand même partagé parce qu'on a une tendance à vouloir faire des certificats.
Pas envie de voir
non, mais débarquer
parents,
non, mais dans les cabinets qui sont bondés, demander des certificats pour les médecins, c'est un peu insupportable.
Mais si l'enfant il a un problème,
revanche,
oui.
Si votre enfant a un problème
scoliose,
de scoliose,
par exemple, voilà.
Un problème, une pathologie rachidienne, un problème de hanche, de genou, peu importe, là oui, évidemment.
Ou une lombalgie chronique, vous en parlez.
Exactement, ouais. Si déjà il est souffrant, évidemment que votre médecin, après un examen clinique, pourra faire une recommandation et qui pourra peut-être faire que l'équipe sera un peu plus ouverte. Mais voilà, pas de coercition. Discutez avec l'équipe enseignante. En général, ils sont assez ouverts.
Puis il y a quelques petits conseils aussi qu'on peut donner aux parents. Bon, alors les cartables, a priori, là, mercredi, ils sont achetés. Hein, mais on peut choisir un sac à dos qui est plus léger, en toile, des petits sacs à dos plutôt que des cartables, d'ailleurs, c'est souvent plus léger. Et puis il y a aussi les enfants là, qui le portent que sur un côté. Là, c'est pas terrible, ça, non?
Non, c'est pas terrible parce que ça entraîne un déséquilibre et forcément, eux, ils ont une attitude scoliotique. Il faut mettre les deux bretelles. Et puis il y a les roulettes, ça marche pas mal aussi. Hein, on a l'impression
quand c'est autorisé, c'est pas autorisé
quand c'est possible,
partout.
On a l'impression de partir en vacances. Et puis maintenant, on a l'ère numérique, donc on aura finalement de moins en moins de supports papier, de plus en plus de supports numériques. Donc finalement, on va peut-être s'en sortir.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed pour tous ces conseils. Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h. Et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui, Catherine Blanc, notre sexologue, va nous parler de préliminaires. Est-il normal de ne pas aimer ça? Elle nous dira tout. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors avec vous tous les jours à la fin de chaque émission, on va parler de sexualité avec des sujets qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, on va parler des préliminaires. On commence par répondre à la question de Anna, 37 ans. Je vous la lis. Alors je ne suis pas très à l'aise avec le cunnilingus, pourtant mon ami semble adorer ça. Moi je ne sais pas, ça me gêne, je trouve ça long. Qu'en pensez-vous? C'est vous, Catherine. Bon, on va essayer de répondre à la question d'Anna. Catherine, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comme elle qui finalement n'aiment pas le cunnilingus?
Absolument. C'est pas nécessairement. Alors, il y a celles qui n'aiment pas, qui disent ne pas aimer, et puis il y a celles qui, comme Anna, disent je ne sais pas trop. C'est-à-dire qu'elles sont assez indécises, elles savent pas très bien qu'en faire de cette histoire-là.
Qu'est-ce qui leur plaît pas? Qu'est-ce qui les dégoûte à ces femmes-là? Parce qu'elle a dit moi je sais pas, ça me gêne, on sait pas trop si c'est. Elle trouve ça répugnant, enfin j'en sais rien, je ne comprends pas bien.
Alors avant la notion de répugnant, c'est surtout la notion d'être toute seule à devoir vivre quelque chose.
C'est-à-dire, elle n'est pas toute seule, il est là celui qui
oui,
pratique.
Oui, mais c'est elle qui doit en faire quelque chose. C'est-à-dire que lui, il est là, il l'entreprend, goulûment manifestement, et avec gourmandise, tandis qu'elle, elle va être un peu soumise à... Est-ce que j'en ressens des choses? Est-ce que c'est agréable? Mais est-ce que je dois? Parce que quand c'est quelque chose... Vous savez, quand vous faites, par exemple, masser, c'est délicieux, mais vous ne faites pas...
On lâche prise, quoi,
vous
aussi.
Faites pas...
non,
oui, vous ne le faites pas. Donc, quand une femme reçoit un cunnilingus, ça peut être absolument délicieux. Pour autant, ce n'est pas une jouissance ou un orgasme. Et du coup, il n'y a pas des sons qui s'échappent involontairement d'elle, de sa voix. Elle ne chantote pas, elle ne ronronne pas. Donc, souvent, il y a une idée que c'est bon, mais comment je le signifie sans que mon partenaire s'inquiète, qu'il continue, comment je le guide, qu'est-ce que je dois en faire, est-ce que ce qu'il voit, ça aussi c'est important, est-ce qu'il voit est convenable, puisque les femmes ne se regardent pas entre les jambes, elles ne se voient pas entre les jambes, même si elles ont pu faire l'expérience du miroir. Donc c'est souvent inquiétant, qu'est-ce qu'il voit de moi, qu'est-ce qu'il comprend de moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, et c'est souvent cette inquiétude
qui la met mal à l'aise.
Voilà, ouais. Et au lieu d'être en elle-même, parce que toute la difficulté des femmes, c'est qu'elles sont toujours en train de réfléchir à la place de l'homme, au lieu d'être dans la situation de la sexualité qui les concerne.
Alors un homme sur le sujet, Jimmy.
Bon, je vais mettre les pieds dans le plat.
Les pieds, normalement c'est pas les pieds,
non, mais c'est déjà pas mal.
On a compris de quoi on parlait, Jimmy.
Est-ce que Anna n'aime pas le cunnilingus parce que son ami s'y prend mal finalement? Est-ce que ça existe des femmes qui n'aiment pas ça, ou au contraire c'est juste une mauvaise technique de la part de leur conjoint ou conjointe?
Bon, il veut la méthode là.
Alors c'est vrai qu'il y a autant de techniques qu'il y a de femmes, parce que certaines vont aimer de façon très délicate, d'autres de façon très pénétrante, d'autres de façon très goulue,
très goulu.
Prennent plein de salive, d'autres aider de doigts. C'est très propre et à chaque femme et à chaque relation.
Donc il n'y a pas une méthode, ça,
et d'ailleurs,
on a compris.
Voilà, et les femmes témoigneront de plaisir de cunnilingus avec des hommes différents qui ont fait des cunnilingus tout à fait différents, et c'est une nouvelle découverte. Parce que le but, ce n'est pas de faire ce que le précédent amant ou le précédent compagnon a fait, parce que si c'est... Finalement, les hommes ne sont pas interchangeables, de même les femmes ne sont pas interchangeables. interchangeables, quand bien même les rapports sexuels et les positions sexuelles sont toujours les mêmes.
Et c'est pas besoin de durer des heures, parce que justement, là, Anna, elle dit « je trouve ça long, ça n'a pas besoin de durer une heure, cette histoire ».
Alors souvent, quand les femmes disent qu'elles trouvent ça long, c'est parce qu'il ne se passe rien pour elles, et qu'elles s'inquiètent parce qu'il ne se passe rien, donc elles voudraient passer à autre chose, où elles solliciteront leur partenaire, et le partenaire sollicité, tout excité, etc., ne sera plus trop à regarder ce qui ne se passe pas chez elle, en fait.
Comment elle peut s'y prendre, Anna, pour peut-être être plus à l'aise? Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Est-ce qu'elle doit se forcer, du coup? Parce qu'elle dit « j'aime pas trop ça ». Est-ce qu'il faut forcément qu'elle se force pour faire plaisir à son conjoint?
En ce qui me concerne, je, contrairement à certains de mes confrères, je considère que l'appétit ne vient pas en mangeant. Donc ce n'est pas en se forçant qu'on finit par prendre du plaisir. Si ce n'est de bousculer sa pudeur, certes, mais pas se forcer. Parce qu'en se forçant, on finit simplement par enclencher un processus défensif psychique qui va au contraire aggraver le côté d'inhibition.
Donc on ne se force pas, on a compris. Jimmy ?
Qu'est-ce qui peut gêner les hommes dans ce rapport sexuel? Et des hommes qui pourraient aimer avoir des fellations, mais qui refuseraient de faire des cunnilingus, c'est pas un peu bizarre?
Non, ce n'est pas bizarre, parce que c'est difficile d'aborder le corps de l'autre. Le sexe d'une femme, c'est aussi justement des sécrétions, des lubrifications. De même qu'il y a des femmes qui font des fellations, mais qui ne peuvent pas imaginer une seule seconde avoir affaire avec le sperme. C'est aussi une question de l'odeur du corps de l'autre. On n'est pas toujours très tranquille avec les odeurs corporelles des uns et des autres. Pourtant, on peut vouloir être complètement embrassé, caressé, léché soi-même, sans pour autant être apte à ça. Même, ça se passe même dans les baisers. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout avoir affaire avec la salive.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, on parlera des problèmes de peau chez l'adulte, de l'acné, en passant par les taches de vieillesse. Vous verrez qu'il y a beaucoup de solutions chez le dermatologue pour retrouver une jolie peau éclatante.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.